ça fait peur de respirer à travers la trachéotomie. Donc, et pour elle, en conséquent, c'est aussi très difficile. Donc, elle demande qu'on puisse continuer dans la prière à l'égard d'Éric, mais qu'on ne l'oublie pas, elle non plus. Si vous voulez son prénom, elle s'appelle Lise. Donc, on prie pour Éric et pour Lise. Quant à mon père, il a eu un examen important hier, qu'on appelle une échographie transœsophagienne. Pour ceux qui ont déjà fait des gastroscopies, c'est un peu la même chose. Donc, on introduit une caméra à travers la bouche, la gorge, et ce qui descend jusqu'à l'œsophage. Mais au lieu d'être une caméra, là, c'est un appareil qui fait une échographie à travers l'œsophage. Donc, une échographie du cœur à travers la paroi de l'œsophage. Il devait avoir un autre test qui était fait en même temps, ça a été repoussé à ce matin, ça devait avoir lieu à partir de 7 heures et là ça a été repoussé. Donc on est encore en attente, c'est un examen qui est encore plus demandant. La gastroscopie ou l'échographie transœsophagienne, elle se fait avec une petite sédation qui te pousse quand même à dormir lorsqu'on te donne une bonne dose, mais ce n'est pas une anesthésie générale en soi. Tandis que l'examen qu'il doit faire ou qu'il devrait faire ou qu'il va peut-être faire aujourd'hui serait sous anesthésie générale. Et là, on introduit une caméra à travers la poitrine jusqu'au cœur. Et ça permet d'aller voir les parois du cœur à l'intérieur même de l'organe, de voir est-ce qu'il y a des caillots de sang et tout ça. Et de surcroît à cela, on le ferait peut-être de surcroît à cette espèce de caméra. On ferait peut-être aussi une procédure qui vise à brûler certaines parties du cœur qui provoquent des petits segments du cœur qui provoquent l'arythmie d'une part, et deuxièmement, pour contrer l'arythmie une fois pour toutes, on arrêterait le cœur et on le redémarrerait aussi avec des électrochocs. Donc c'était ce qui était prévu pour aujourd'hui, c'est ce qui était pensé pour ce matin, mais il y a eu des urgences hier, il y en a d'autres ce matin, donc pour l'instant il est mis en pause. Donc c'est les dernières nouvelles qu'on a. Donc ça c'était les nouvelles pour Patricia, pour Eric et pour mon père. Alors on va prier pour débuter ce matin. On vous donne ces nouvelles-là simplement pour que vous les gardiez dans la prière tout au long de la journée. Alors prions pour ce temps d'exhortation qu'on va prendre maintenant. Alors Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Un moment, Seigneur, à travers lequel nous plongeons nos regards dans ta parole. Un moment où nous désirons être abreuvés et nourris par ta main. Que tu puisses, Seigneur, répandre ta grâce sur nous. Bénis nos trois frères et sœurs qu'on vient de mentionner, Patricia, Eric, le pasteur Giacomin. Que ta grâce leur soit accordée. Que ton soutien, Seigneur, soit palpable, tangible. Qu'ils puissent ressentir ta présence qui les environne, non seulement eux, mais toutes les personnes qui sont autour d'eux aussi. Prends contrôle non seulement d'Éric, mais aussi de sa maman, Lise, puisses-tu l'encourager. C'est souvent très douloureux pour une maman de voir ses enfants passer par des moments de santé assez précaires. Donc on te demande, Seigneur, de te révéler à Lise et de l'entourer aussi, Seigneur, de ta grâce et de ta paix. Merci, Seigneur, d'intervenir tout au long de cette matinée. Et que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors je lis pour vous les versets pour aujourd'hui, toujours dans Éphésiens 5, le chapitre 5, et les versets 15, 16 et 17. Et aujourd'hui, on étudie la deuxième partie du verset 17. Alors je lis dans le verset 15 d'Éphésiens 5. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Je répète le verset 17 deux fois. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Alors tout au long de cette semaine, on étudie une thématique particulière qui est quelle est ma réponse face à l'enseignement de la parole de Dieu. Et comme on l'a dit depuis lundi, lorsqu'on parle de la parole de Dieu ici ou de la parole reçue, on ne parle pas de nos temps de méditation personnelle, nos temps de dévotion personnelle, nos temps de lecture personnelle, mais on parle du temps qu'on prend devant la parole de Dieu en groupe. Donc la nourriture qui nous est accordée à nous tous au niveau de l'assemblée, les prédications, les enseignements, les cours, les études bibliques qui sont données en tant qu'église locale. On n'a cesse de vous répéter que les paroles qu'on enseigne quotidiennement, bien qu'elles soient peut-être venues dans l'esprit du prédicateur, de l'enseignant, à travers les dernières heures, les derniers jours, voire les dernières semaines, ce que l'on sait, puisque notre Dieu connaît toutes choses d'éternité en éternité, on sait que cela est sorti de son cœur de toute éternité et qu'il avait prévu de toute éternité que ce sont ces paroles que nous recevrions à telle date particulière dans l'histoire de nos vies, dans le quotidien tout précis et particulier de nos vies respectives. Alors ce que je m'apprête à dire ce matin a encore été préparé par Dieu pour de toute éternité, mais spécifiquement pour aujourd'hui, spécifiquement pour qui nous sommes, spécifiquement pour toute personne qui se joindra à nous à travers ces enseignements, puisqu'il n'y a pas de hasard devant Dieu. Alors l'important pour nous est de savoir quelle est la réponse que moi j'offre à cette réception de la parole de Dieu à travers les prédications et enseignements de nos bien-aimés. Est-ce que j'y suis favorable? Est-ce que je le prends comme étant le précepte, les enseignements, les conseils que Dieu veut nous donner à nous et à moi précisément? Est-ce que je le rejette du revers de la main? Est-ce que je lui donne toute mon attention? Est-ce que je bâtis ma vie là-dessus? Est-ce que je réforme ma vie en conséquence de ces enseignements? Ou tout simplement j'ai l'espèce de peau de canard où l'eau ruisselle, la parole vient me frapper, et elle trouve une fin de non-recevoir, elle trouve un cœur qui lui est fermé, une pensée qui lui est bloquée, ou est-ce que je suis comme une éponge qui absorbe et qui absorbe et qui retient la nourriture et l'eau qui nous vient de Dieu. Alors comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Premier point ce matin lorsqu'on lit cette phrase, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est de savoir que la question prioritaire dans notre vie, s'il y avait une question à se poser pour nous quotidiennement, ça serait quelle est la volonté de Dieu pour moi? Quelle est la volonté de Dieu pour cette journée? Quelle est la pensée de Dieu pour moi aujourd'hui? Et je ne sais pas si vous avez ce réflexe dans votre temps de prière personnelle, dans votre temps avec Dieu, et de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi aujourd'hui? Quels sont tes plans pour aujourd'hui? Lorsqu'on va au travail régulièrement, à moins qu'on ne soit dans une tâche qui soit très routinière, une tâche qui se répète quotidiennement, à moins que ce soit le cas. Sinon, vous arrivez au travail le matin et vous recevez une espèce de feuille de charge pour la journée. Vous faites le bilan avec l'équipe qui vous a précédé, vous regardez quels sont les objectifs pour la journée et vous adaptez votre journée, votre temps, vos occupations par rapport aux objectifs du jour. Avec Dieu, ça devrait être la même chose. Se lever le matin et dire, bon, mais Seigneur, tu m'accordes une nouvelle journée. Tu m'accordes un nouveau 24 heures. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ce 24 heures? Et malheureusement, c'est souvent quelque chose qu'on oublie de faire. Et ce faisant, on passe à côté des plans que Dieu avait pour nous. Si on a été créé avec un propos, si on a été créé avec un objectif, si notre présence sur Terre, à ce moment-ci de l'histoire de l'humanité, dans ce contexte-ci de la société dans laquelle nous sommes, si ce n'est pas le fruit du hasard, et tout simplement, en bon québécois, des addons, mais si c'est vraiment le plan parfait et excellent de Dieu, alors il nous faut connaître ce plan. Si je ne suis pas ici pour rien, si je ne suis pas ici par fatalité, si je ne suis pas ici-bas tout simplement par hasard, c'est donc que Dieu m'a créé avec un but et un objectif. Et si je ne connais pas le plan de Dieu, ben à ce moment-là, je peux me préoccuper d'un tas de choses, mais passer à côté du plan de Dieu. Je peux m'impliquer dans un tas d'activités, mais passer à côté des objectifs que Dieu avait pour nous ou avait pour moi aujourd'hui. Alors, le premier point pour nous aujourd'hui, c'est de savoir que la question prioritaire de notre vie quotidienne, c'est quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et ça, il nous faut prendre l'habitude de demander à Dieu, « Seigneur, parle-moi aujourd'hui, guide-moi aujourd'hui, guide mes pas aujourd'hui, guide mes mains aujourd'hui, pour qu'à la fin de cette journée, lorsque, Seigneur, tu fais le bilan de cette journée, tu puisses voir que ton serviteur ou ta servante a fait ce pourquoi tu l'avais créé, appelé, équipé et mandaté. » Alors, quelle est la volonté de Dieu pour toi? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? La parole reçue, puisqu'on parle d'effectivement des enseignements qu'on reçoit, la parole reçue nous dit qu'on va comprendre la volonté de Dieu, que nous pouvons comprendre la volonté de Dieu. Ça veut donc dire que la volonté de Dieu est accessible. Mais comprendre la volonté de Dieu, ça veut dire quoi dans le pratique? Le terme volonté, c'est le terme téléma. Téléma. T-H-E-L-E-M-A. Je répète, téléma en grec, bien sûr. T-H-E-L-E-M-A. Et bien sûr, je répète toujours pour les personnes qui prennent des notes. Donc, téléma veut dire ce qui est le désir, le commandement, les préceptes ou le plaisir de quelqu'un. Et lorsqu'on va donc parler de la volonté de Dieu, ça veut donc dire qu'il t'est possible à toi, qu'il m'est possible à moi, un simple individu et simple humain, avec toutes nos failles, avec tous nos manquements, avec toutes nos limites, de connaître tout de même ce que Dieu désire, ce que Dieu commande, les préceptes de Dieu et ce qui fait plaisir à Dieu. Et c'est quatre domaines différents. La volonté de Dieu se constitue effectivement des désirs, des commandements, des préceptes et des plaisirs de Dieu. Prenons chacun de ces termes-là de façon individuelle. Quels sont les désirs de Dieu? Ce que Dieu espère de toi, ce qu'il espère de moi. Il avait des objectifs. Et ne pas atteindre les objectifs de Dieu ne veut pas nécessairement dire qu'on a enfreint les commandements de Dieu et qu'on a donc péché. Mais ce sont des objectifs début. Alors, quand on demande, Seigneur, quelle est ta volonté? On demande à Dieu, mais quels sont tes désirs pour moi, Seigneur? Quels sont tes plans pour moi, Seigneur? Et c'est important de savoir donc quels sont ces désirs. Parce qu'effectivement, on pourrait être impliqué dans l'activité A alors que le Seigneur veut l'activité B. Ou nous, on pourrait dire, moi, je préfère faire l'activité Y alors que le Seigneur dit, non, l'activité que moi, j'aimerais que tu fasses, c'est la E. Donc, il est important qu'on sache les désirs qui animent Dieu à notre égard. De surcroît à cela, pour faire sa volonté, il faut aussi savoir ce que Dieu bénit de ce qu'il désapprouve. Ce que Dieu accrédite, ce sur quoi Dieu appose son sceau de bénédiction et ce qu'il décrit ou ce qu'il maudit ou ce qu'il défend de faire. Alors, il est donc important, au-delà des désirs de Dieu, de connaître aussi ses commandements. On ne peut pas être obéissant à Dieu si on ne connaît pas ses commandements. Plusieurs vont plutôt préférer rester dans l'ignorance en se disant « Puisque je ne connais pas, je ne suis pas en train d'enfreindre volontairement les plans de Dieu. » Les commandements de Dieu ont été donnés dans la parole. On peut y faire, on peut jouer à l'autruche, se fermer les yeux, mais les choses sont assez claires dans la parole de Dieu sur ce que Dieu condamne par rapport à ce qu'il approuve, ce qu'il aime et ce qu'il déteste, ce qu'il approuve et ce qu'il désapprouve. Donc à nous aussi de connaître les commandements de Dieu. L'enseignement de la parole nous permet d'avoir une meilleure connaissance de ses commandements et par conséquent, si on veut effectivement accomplir sa volonté, de se mettre en règle par rapport aux commandements, aux choses qu'il ordonne de nous. Donc il y a les choses qu'il désire, puis il y a les choses qu'il ordonne de chacun d'entre nous. Mais de surcroît à cela, il y a aussi ses préceptes. Et souvent dans l'Ancien Testament, on va parler des commandements et des préceptes de Dieu, qui sont deux choses différentes. Les commandements, ce sont des règles ferme, définitive, claire, soit tu les fais, soit tu vas à l'encontre. Et si tu vas à l'encontre, tu es donc au niveau du péché. Lorsqu'on parle des préceptes, on parle plutôt des conseils que Dieu nous donne. Voici comment mener votre vie. Voici comment jouer votre rôle de serviteur. Voici comment vous conduire. Voici l'attitude que vous devriez avoir. Voici vers quoi vous devriez tourner votre attention, vers quoi vous devriez tourner vos efforts. Et ça, ce sont des préceptes. Un synonyme de précepte pourrait être un conseil. Un conseil n'est pas un commandement. Un conseil, c'est tu vivrais mieux si tu faisais ainsi. Tu vivrais mieux si tu opérais selon la sagesse même de Dieu. Donc, si on veut marcher dans la parfaite volonté de Dieu, encore faut-il aussi connaître sa pensée et aussi connaître ce que Dieu nous conseille et les mettre en pratique. Et dernier point, les plaisirs de Dieu. J'ai souvent dit qu'il nous est possible de faire plaisir à Dieu. Il nous est possible de réjouir le cœur de Dieu. Il y a des choses qui le laissent possiblement impassible, mais il y a des choses qui l'allument profondément. Il y a des choses avec lesquelles le Seigneur se réjouit. La Bible nous dit qu'il y a une grande fête, il y a une grande joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Ça veut dire que même Dieu ressent de la joie lorsque nous obéissons à ses commandements, lorsque nous nous tournons vers lui, lorsqu'on se repent de nos péchés. Ça veut donc dire que dans nos activités de tous les jours, dans nos actions, dans nos prises de position, nous pouvons plaire à Dieu, lui apporter du plaisir, ou nous pouvons déplaire à Dieu et donc lui amener un déplaisir. La Bible nous dit que si on est tiède, Dieu va nous vomir lui-même de sa bouche. Ça veut donc dire qu'il y a des choses qu'on peut présenter à Dieu comme une tiédeur au niveau spirituel qui fait en sorte que Dieu nous rejette, nous vomit parce que la chose lui est inacceptable. Donc, lorsque nous connaissons la parole, lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsque des enseignements nous sont prodigués, ces enseignements-là ont comme objectif, lorsque nous ouvrons notre cœur et lorsque nous ouvrons nos oreilles, lorsque nous ouvrons notre disposition de cœur face à Dieu, ça nous permet de saisir les désirs de Dieu, ce qu'il espère de nous, ce qu'il souhaite de nous. Ça nous permet de comprendre ses commandements, ce qu'il bénit, ce qu'il punit, ce qu'il trouve acceptable, ce qu'il trouve répréhensible. Ça nous permet de connaître les conseils de Dieu, donc la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu. Et enfin, ça nous permet de connaître ce qui fait plaisir à Dieu versus ce qui lui déplaît. Et ça, c'est donc important maintenant que vous allez écouter la parole de Dieu dimanche ou à d'autres occasions, le matin lors de nos bénédictions matinales. Voici l'objectif pour lesquels ou les objectifs pour lesquels le Seigneur nous donne ces enseignements si réguliers, si fréquents durant la semaine, pour connaître ses désirs, pour connaître ses commandements, pour connaître ses préceptes et pour connaître ce qui lui fait plaisir. Troisième point pour ce matin, la parole reçue nous amène aussi à réfléchir et à statuer sur la seigneurie de Dieu dans notre vie. On nous dit: mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, il y a la volonté qui est une chose, mais de surcroît à cela, on spécifie que c'est la volonté du Seigneur. Et vous connaissez tous le terme maintenant, vous êtes des experts en grec depuis le temps qu'on étudie ensemble certaines terminologies. Certains se rappellent assurément déjà, ils peuvent le crier dans le salon, quel est le mot grec pour Seigneur? C'est le terme Kyrios. Kyrios, pour ceux qui l'écrivent pour une première fois, Kyrios, Kyrios, et je vous donne les définitions qu'on a étudiées à travers les derniers mois. Donc, Kyrios, c'est celui à qui appartient une chose ou une personne, donc un propriétaire, celui qui a droit de décision sur une chose ou sur quelqu'un, celui qui dispose d'une chose ou d'une personne. On parle aussi d'un suzerain, d'un souverain, d'un prince, d'un chef d'État, d'un chef militaire. Et enfin, quand on parle de Kyrios, c'est aussi les salutations très révérencieuses qu'on a entre un maître, un sujet, un serviteur et son seigneur. Lorsque le serviteur s'approche de son maître, il l'appelle seigneur. Kyrios, c'était une appellation digne qu'on accordait à un maître, à un souverain autrefois. Donc la parole reçue nous amène à réfléchir et à statuer sur la seigneurie de Dieu dans notre vie. Par exemple, lorsque nous étudions la parole de Dieu, et ça a été souvent le cas depuis maintenant un an et demi, depuis le stade initial de confinement auquel on a été soumis, on a parlé, est-ce que Dieu est vraiment notre Seigneur? Est-ce qu'il est notre propriétaire? On a dit, celui à qui appartient une chose ou une personne, celui qui a droit de décision sur une chose ou sur une personne, celui qui dispose d'une chose ou d'une personne, donc un propriétaire. Dieu est-il vraiment propriétaire de ta vie? La parole de Dieu, la parole que nous recevons, les enseignements que nous recevons vont nous pousser à se poser la question, à savoir, Dieu est-il vraiment Seigneur de ma vie? Est-il Sauveur? Ça, c'est déjà une bonne question, mais il ne peut pas être Sauveur sans être Seigneur. Donc, tu dois te poser la question, est-il Seigneur dans ma vie? A-t-il le droit d'un Seigneur dans ma vie? Est-il propriétaire de mon existence? S'il est propriétaire, il n'est pas propriétaire conjointement à moi. Il n'est pas propriétaire conjointement à quelqu'un d'autre. S'il est propriétaire, Dieu est propriétaire unique, seul et solitaire. Donc, est-il propriétaire de ta vie? Ou parfois, es-tu toi-même ton propre propriétaire? Où te positionnes-tu comme étant le propriétaire de ton existence? Donc, la parole de Dieu, l'enseignement, la prédication va te faire te poser les questions sur le droit de propriété de Dieu. Le droit que tu lui permets d'exercer en tant que propriétaire sur ta vie. On va parler aussi du souverain. Donc non seulement le propriétaire, mais est-il le roi de ta vie? Est-il comparativement à toi, es-tu son sujet? Ou parfois agis-tu comme le roi et Dieu ton sujet? Vous me dites, non, on ne ferait jamais ça. Mais régulièrement, on agit ainsi lorsqu'on impose des choix à Dieu. Lorsqu'on l'oblige à faire toute chose, lorsqu'on décide de ne pas prier en terminant nos prières en disant, mais Seigneur, que ta volonté soit faite, ou lorsqu'on ne désire, lorsqu'on agit, on prie et on refuse que Dieu fasse sa volonté par rapport à une situation, par rapport à un état, par rapport à un contexte particulier, un environnement. On dit non, Seigneur, moi, j'accepte pas ça. Je vous ai déjà parlé que lorsque j'ai prié à Dieu, lorsque je suis tombé malade, j'ai dit, Seigneur, c'est correct. Tu peux faire ce que tu veux, me ramener ou me garder. Et ça, c'était dire à Dieu, je ne suis pas le maître de ma vie, je n'en suis pas le propriétaire, c'est toi, alors tu as le droit de faire ce que tu veux. Et de surcroît à ça, je ne t'impose rien. Je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit. Je prie que ta volonté soit faite. Et ce faisant, je me place comme sujet et lui comme souverain. Enfin, il est chef militaire. Quand il est seigneur, il est chef militaire. Ça veut donc dire qu'un chef militaire me donne les instructions sur le combat à mener. sur les cibles à atteindre, sur la démarche à suivre, sur le chemin à parcourir, sur l'orientation de la voie que je dois suivre. S'il est le maître, le chef militaire dans ma vie, je suis donc un soldat sous ses ordres. Est-ce que je me comporte effectivement comme un soldat sous les ordres de Dieu? Et enfin, s'il est Seigneur, il est donc le maître et moi je suis le serviteur. Et un serviteur doit servir. Ça veut dire que si moi de ma semaine, je ne fais rien pour l'avancement du royaume de Dieu, si la seule chose que je fais, c'est aller au travail, faire mes heures, rentrer à la maison, m'affaler devant la télévision en mangeant du pop-corn et je fais le bilan de la semaine et je ne trouve pas d'occasion dans lesquelles j'ai travaillé de façon claire, précise, nette pour l'avancement du royaume de Dieu, alors je n'ai rien fait. Alors je n'ai pas servi. Un serviteur, s'il doit être déclaré comme bon et fidèle, c'est donc qu'il a accompli un service. Alors, quel est le service que tu accomplis durant ta semaine? Là, vous allez me dire, ah, mais je prie. Mais non, non, la prière, c'est pas un service. La prière, c'est comme respirer pour le corps humain. La prière fait partie de l'hygiène normale, l'hygiène spirituelle normale. Vous allez me dire, ah, ben, j'étudie la parole. Non, non, non. Étudier la parole de Dieu, ce n'est pas servir Dieu, c'est se nourrir. C'est s'abreuver, ça c'est prendre soin de nous. Ça ne veut pas dire que tu étudies la parole de Dieu et que tu es en train de travailler pour Dieu. Qu'est-ce que tu fais de concret qui permet au royaume de Dieu d'avancer? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours où tu peux dire oui, effectivement, aujourd'hui j'ai pris une position, aujourd'hui j'ai accompli une œuvre, parce que servir c'est accomplir des œuvres. Quelles sont les œuvres concrètes que tu es capable d'accomplir, qui font avancer le royaume de Dieu? Et ça, tu dois y répondre. Si tu n'as pas d'exemple de service concret à l'égard du royaume de Dieu, ça veut donc dire que tu n'as pas servi. Donc, il est important pour nous, s'il est Seigneur, qu'on s'interroge à savoir, est-ce qu'effectivement il a des droits de propriétaire sur moi? Est-ce que je lui laisse exercer ses droits de propriétaire? Est-ce qu'il est souverain et moi sujet? Donc, est-ce que je me comporte face à lui en lui disant, Seigneur, ta volonté et non pas la mienne? Est-ce qu'il est chef militaire? Alors, je le laisse me diriger, oui ou non? Ou c'est moi qui impose le parcours, le chemin, le rythme, la cible et tout ça? Ou je suis soumis à ses plans et à sa volonté? Et en fait, est-ce que je suis serviteur et lui maître? Ou on change les choses? Très souvent, il y a des gens qui se comportent avec Dieu et même dans leur temps de prière, leur temps de prière, c'est du « donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça ». Ça, c'est exigé de Dieu. Et voilà pourquoi je vous ai déjà dit que personnellement, pendant mon temps de prière, j'avais dit aux gens, regardez, c'est de votre responsabilité de prier pour moi. C'est votre responsabilité d'intercéder à mon égard. Mais j'avais dit, moi, dans mon propre cas, de par ma relation avec Dieu, je n'irai pas là. Je vais dire simplement à Dieu, Seigneur, fais ta volonté. Par contre, la volonté de Dieu pour vous, c'était d'intercéder pour moi. Au même titre où la volonté de Dieu pour moi, c'est d'intercéder pour mes frères et mes sœurs. Oui, je finis ces prières avec un cœur, avec une attitude et parfois même avec les paroles audibles qui disent « Mais Seigneur, en toute chose que ta volonté soit faite », mais j'ai foncièrement cette attitude dans mon cœur où je dis « Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté ». Donc Dieu est-il propriétaire, souverain, chef militaire et est-il maître dans ta vie? Enfin, et lorsque, là c'est le terme « comprenez », mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On a parlé de la volonté, on a parlé de la seigneurie. Maintenant, comprenez. La parole reçue nous permet de mieux saisir qui est Dieu et de comprendre tant sa volonté que sa seigneurie. À travers l'enseignement d'aujourd'hui, je vous ai expliqué ce qu'était la volonté de Dieu, donc les désirs, les commandements, les préceptes, les plaisirs. Je vous ai expliqué aussi quelle était la seigneurie, propriétaire, souverain, chef militaire, maître. Donc, la parole de Dieu nous permet de mieux saisir Dieu et de mieux comprendre sa volonté et sa seigneurie. Le terme « comprendre », c'est le terme « signémie ». S-Y-N-I-E-M-I. Je répète pour ceux qui prennent les notes, toujours S-Y-N-I-E-M-I. Et le terme syniémie avait deux connotations particulières. La première, c'était le fait de rassembler. Rassembler des faits, rassembler des parties, rassembler des morceaux. Et en ce sens-là, ça veut dire départager ce qui est de Dieu de ce qui n'est pas de Dieu. Être capable de faire la part des choses entre ce qui est la volonté de Dieu et ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Être capable d'aller chercher les bribes à droite et à gauche, les parties qu'on a dit tout à l'heure, la partie qu'on appelle les désirs de Dieu, la partie qu'on appelle les commandements de Dieu, la partie qu'on appelle les préceptes de Dieu, la partie qu'on appelle les plaisirs même de Dieu, et être capable de rassembler ça pour être capable de comprendre l'ensemble de la volonté de Dieu. C'est donc lorsqu'on reçoit la parole, à travers les enseignements, à travers les prédications, on apprend effectivement à reconnaître ce qui est la volonté de Dieu de ce qui n'est pas la volonté de Dieu, de ce qui constitue la volonté de Dieu, de ce qui ne constitue pas la volonté de Dieu. Donc, rassembler dans le terme syniémie, mais de surcroît à cela, au-delà de rassembler, il y a le terme aussi joindre. Donc, les deux connotations, rassembler ce qui constitue la volonté de Dieu, mais aussi joindre la volonté de Dieu. Et ici, on parle d'embrasser donc cette volonté de Dieu, de m'unir à cette pensée, à cette volonté de Dieu. Comme je le dis régulièrement, on peut soit subir la volonté de Dieu ou on peut embrasser la volonté de Dieu. Et c'est deux attitudes de cœur totalement différentes. Et j'espère pour toi et pour moi, lorsqu'on pense à la volonté de Dieu, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'occasions pour nous d'embrasser ou on embrasse la volonté de Dieu plutôt qu'on ne s'y plie de force et malgré nous. J'espère que lorsque le Seigneur regarde la réponse qu'on lui donne par rapport à ses demandes, à ses désirs, à ses commandements, à ses préceptes, à ce qui lui fait plaisir, j'espère que Dieu ne voit pas chez nous le visage de quelqu'un qui vient de croquer dans un citron. J'espère qu'il ne voit pas une grimace dans notre visage lorsqu'on fait sa volonté. J'espère qu'il ne voit pas une attitude comme quelqu'un qui s'est fait tordre le bras pour accepter la volonté de Dieu. Mais j'espère qu'il peut voir chez toi. J'espère qu'il peut voir assurément chez moi. Je le souhaite qu'il puisse voir quelqu'un qui embrasse sa volonté en disant, un peu comme Jésus l'a fait lui-même lors du jardin de Gethsémané. Il va dire à son père, il va dire à Dieu, « Seigneur, si tu pouvais enlever cette coupe de mes lèvres. » En tant qu'humain, c'est demandant pour Jésus, sachant la croix qui arrive, sachant le martyre qui s'en vient, c'est demandant humainement pour lui. Mais il va dire à Dieu, il va dire à son père, « Si tu pouvais enlever cette coupe de mes lèvres, mais en toute chose, que ta volonté soit faite. » Et Jésus va même pousser plus loin en disant, « Il n'y a personne qui prend ma vie. C'est moi qui la donne pour mes brebis. » Ça veut dire que Dieu demandait, mais Jésus, en tant que 100% Dieu et 100% homme, dans ce 100% homme, Jésus a lui aussi été confronté au fait de embrasser ou non la volonté divine. Et pour toi et pour moi, on a ce même dilemme. Quelle est la réponse que tu offres à la volonté de Dieu? Est-ce que tu offres le visage d'un tordage de bras? Est-ce que tu offres le visage d'une oreille qui est tirée constamment? Ou tu offres le visage de quelqu'un qui dit, « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté uniquement, ta volonté toujours, ta volonté pour toujours. » Alors, quelle est ta réponse à Dieu? Alors, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu que connaître la volonté de Dieu et s'interroger sur la volonté de Dieu devrait être notre questionnement quotidien. Seigneur, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Connaître la volonté de Dieu, volonté téléma, donc connaître les désirs de Dieu, connaître les commandements de Dieu, connaître les préceptes de Dieu, la sagesse, les conseils de Dieu, connaître aussi les plaisirs de Dieu. Connaître aussi la volonté du Seigneur. Donc, se poser la question, la prédication nous amène à nous interroger, à savoir, Dieu est-il propriétaire? Dieu est-il vraiment le souverain, le roi de nos vies? Dieu est-il vraiment le général en chef, le commandant en chef de son armée et de moi comme soldat? Dieu est-il effectivement le maître et moi le serviteur dans notre relation? Dieu nous permet, à travers la prédication, enfin, de rassembler toutes ces parties qui nous permettent de les connecter les unes aux autres afin de connaître sa parfaite volonté. Et il nous permet, à travers la prédication, de nous poser la question importante. Est-ce que je subis ou j'embrasse la volonté de Dieu? Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va prier pour terminer et après quoi, on saluera quelques personnes si mon écran me le permet. Alors merci Seigneur pour ce rappel encore de ta volonté ou peut-être l'explication peut-être plus claire pour certains de ce qu'est ta volonté. Seigneur, je veux connaître tes désirs pour ma vie. Seigneur, je veux connaître tes commandements pour vivre en règle devant toi. Seigneur, je veux connaître tes préceptes, tes conseils pour mener cette vie ici-bas sur terre de la meilleure façon qui soit, de façon la plus efficace qui soit possible. Et en fait, Seigneur, je veux connaître ce qui te fait plaisir pour que je puisse réjouir ton cœur à travers mes actions, à travers mon positionnement, à travers mes dispositions. Enfin, Seigneur, je veux connaître tout cela pour ne plus être à même de subir ta volonté, mais pour l'embrasser totalement. Seigneur, je veux non pas avoir l'attitude de quelqu'un sur qui ta volonté est forcée, mais comme quelqu'un, Seigneur, qui se porte volontaire pour te servir avec tout ce qu'il a, avec tout ce qu'il est. Alors merci, Seigneur, pour cet enseignement. Merci pour ma sœur et mon frère qui ont écouté ce matin. Que ta grâce leur soit accordée, que tu répandes ton onction afin qu'ils puissent pleinement saisir ta parole pour eux aujourd'hui. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur, notre Maître, notre Souverain, notre Propriétaire, notre Chef, notre Maître, notre Général, Jésus. Amen. Alors voilà, c'était les annonces pour ce matin, ou l'enseignement pour ce matin plutôt. Permettez-moi de remonter, voir si je vois quelques personnes qui se sont jointes à nous. Je crois qu'il y a eu une petite coupure de son à un moment donné, on s'en excuse. J'espère que ça a bien terminé malgré tout. Bonjour à Jocelyne et à Jacques. Bonjour à Didier. Bonjour à Maggie. Je prends une petite gorgée. Bonjour à la sœur Teresa. Bonjour à Gérard et Denise. Bonjour à Nadège. Bonjour à Myriam et à Donald. Et c'est tout. Alors, tous les autres, vous avez été salués, ceux qui nous regardent par un autre, une voie de contournement. On ne voit pas vos noms, mais que Dieu vous bénisse aussi. Donc, j'apprends en même temps que vous l'examen que mon père devait avoir aujourd'hui, qui est quand même assez invasif et assez demandant, a été remis à un autre jour, parce que les conditions au niveau physique ne sont pas optimales actuellement pour lui. Donc voilà, vous êtes à jour comme moi. Alors d'ici demain, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin. C'est notre journée de jeûne et prière demain. Donc on se retrouve demain à 8h30 pour notre prochaine bénédiction matinale. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.